des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Virginia Crespo.
Nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Hébrard, grand prix du roman de l'Académie française, pour son roman Le Harem en 1987, auteur de nombreux best-sellers, La Demoiselle d'Avignon, La Chambre de Goethe, Le Mari de l'Ambassadeur, Le Château des Oliviers, Le Grand Battre, La Protestante et le Catholique, Esther Mazel, Le Goûter de Dieu, Je vous aime toujours. Beaucoup de ses livres ont été adaptés pour la télévision, ayant connu de grands succès, faisant référence dans les annales de la télévision, telle La Demoiselle d'Avignon, Le Château des Oliviers. Frédéric Hébrard, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai annoncé un double parcours, car je dois vous préciser, pour tous ceux qui ne le savent pas encore, ils doivent être très peu nombreux, que Frédéric Hébrard, vous êtes la fille d'André Chanson de l'Académie française, ce grand romancier cévenol qui nous a quittés en 1983. Les éditions Omnibus rééditent un certain nombre des œuvres d'André Chanson. C'est donc pour nous aujourd'hui l'occasion d'évoquer à travers vos ouvrages, Frédéric Hébrard, et ceux de votre père, donc ce double parcours. Frédéric Hébrard, votre époux est Louis Veil, comédien célèbre, connu de nos auditeurs et des téléspectateurs. Louis Veil, lui aussi, s'est beaucoup impliqué dans l'aventure de vos livres, dans l'aventure de vos films à la télévision depuis quelques années.
Depuis très longtemps, nous avons travaillé ensemble.
Frédéric Hébrard, pourquoi ce nom et non pas Veil ou Chanson ?
Eh bien, vous savez, quand j'étais petite, je voulais être danseuse. La vie ne m'a pas permis de l'être et je m'en félicite parce que je serai à la retraite depuis très longtemps. Je serai obligée de fouetter les mollets des gamines avec une badine alors que je suis écrivain. Mais avant d'être écrivain, j'ai voulu être comédienne. Et je savais quand même que un jour j'écrirais et je ne voulais pas... gêner mon père en portant le même nom. Vous savez, entrer dans une librairie et dire « Donnez-moi le dernier chanson ». Non, je voulais pas lui faire ça. Alors je me suis dit « Il faut que tu trouves un nom ». Et j'ai trouvé le nom de mon arrière-grand-père maternel, Frédéric Hébrard, qui avait des favoris merveilleux et qui était marchand de laine à Anduze sous le Second Empire. Et j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup attachée à mon nom de choix. Et puis, j'ai vécu à l'ombre du père et à l'ombre de la montagne. Et pour moi, papa et l'égual, c'était un petit peu la même chose.
Oui, on ne peut parler de vous ni de votre père sans qu'en filigrane apparaissent le Mont-Égual, les Cévennes.
Voilà.
Ce sont les racines.
Ce sont les racines, c'est-à-dire que mon père était totalement cévenol, à part une grand-mère camarguaise. Mais c'était pas très loin et c'était ces relations entre les cavaliers où allaient se placer les garçons de la montagne pour avoir du travail et puis les vignes aussi où on allait travailler. Et je crois que l'arrière-grand-mère avait des vignes. Et sans doute, un beau garçon est descendu de la montagne pour monter à cheval et garder les taureaux. Et ça doit être comme ça. Mais enfin, on est resté dans le Gard, d'abord, qui est un département complet puisqu'il a les pieds dans la mer Méditerranée et il a la tête dans les nuages de l'Égual. Et il y a de tout, de la vigne, des arbres, le châtaignier... Et il y a des moutons, il y a des lacs, il y a des rivières, il y a des cascades, il y a de la neige l'hiver et des bêtes sauvages dans la montagne.
Ce sont là vos lieux d'enfance ?
Ce sont mes lieux d'enfance avec l'odeur des framboises dont je me souvenais toute l'année. Et ce merveilleux royaume que mes parents m'ont fait découvrir dès le berceau... Je n'y ai pas touché quand je suis devenue écrivain, parce que pour moi, il appartenait entièrement à mon père. Si, quand j'ai commencé à écrire des choses personnelles, des souvenirs d'enfance comme La Chambre de Goethe, La Citoyenne, puis plus tard avec Louis Vel, La Protestante et le Catholique, eh bien évidemment, à ce moment-là, j'ai parlé des Cévennes. Mais je n'ai abordé la Cévenne sur un plan de fiction que, mon Dieu, assez longtemps après la disparition de mon père, parce que j'avais l'impression que ce royaume lui appartenait. Et puis, un jour, il faut accepter d'être celle qui hérite de la mémoire. Et c'est ce que je dis à la fin de La Citoyenne. Je dis maintenant, je suis la mémoire. Et cette mémoire, je dois la transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, mais je dois aussi la transmettre aux gens qui ne connaissent pas les Cévennes et qui, s'ils les connaissent un jour, vont les aimer.
Frédéric Hébrard, enfant unique.
Enfant unique.
Un père et une mère présents.
Oui et non. Très attentif, très occupé, très sévère. Vous savez, papa et maman étaient ce qu'on appelle des protestants sociologiques. J'ai mis longtemps à comprendre le sens de cette association, c'est-à-dire qu'ils étaient restés protestants sans avoir, je n'ose pas dire la foi, sans aller encore au temple, mais ils étaient restés protestants comme un juif reste juif en n'allant plus à la synagogue, mais en se sentant toujours appartenir à cette race. Et au fond, les Cévenols, c'est une race. Et mes parents trouvaient du reste que les Cévenols, enfin les protestants et particulièrement les protestants Cévenols étaient des gens tout à fait extraordinaires. Et c'était étonnant parce que je n'ai jamais rencontré des gens qui soient moins racistes qu'eux. Mais là, il y avait une appartenance à la terre qui était très violente.
Frédéric Hébrard, vous avez confié à un journaliste « Je suis Cévenol. Depuis avant la réforme, j'ai grandi dans un contexte très particulier. Dans mon enfance, on ne fréquentait pas les catholiques. Chaque confession vivait de son côté. Il y avait des maisons catholiques et des maisons protestantes. Pourtant, dans l'épreuve de la mort, les uns étaient toujours là pour les autres. Les catholiques venaient faire la toilette d'un défunt protestant. Quand quelqu'un mourait dans la montagne, on allait lire les psaumes chez la famille. Une infirmière protestante, membre de l'Église réformée de France, m'a raconté avoir glissé un chapelet dans les mains de tous les mourants catholiques qu'elle soignait. J'ai trouvé cela extraordinaire. On vivait ensemble et on partageait les moments forts sans chercher à abolir les différences. Et c'est ce que vous avez raconté justement dans votre dernier ouvrage, Les châtaigniers du désert.
Oui. Moi, j'ai connu, étant enfant, je n'ai pas connu ce que mon père, lui, a connu quand il allait à l'école laïque et qu'il y avait les enfants de l'école catholique avec qui ils se jetaient des pierres sous les châtaigniers, justement, au Vigan, en se traitant de fils du pape. Et ça, c'était pour les catholiques. Et puis, les petits catholiques disaient « gorge noire, oreille collée aux protestants ». Alors, souvent, je me tirais la langue devant la glace et je regardais si mes oreilles étaient collées. Non, pas. Elles auraient plutôt été décollées. Et ça, j'ai pas connu. J'ai connu à travers la littérature et les récits de mon père. Mais ce que j'ai connu, c'est en effet le pain qu'on achetait chez le boulanger protestant, parce qu'on serait pas allé chez le catholique. Et j'ai connu aussi la mort arrivant dans une ferme. Là, tous venaient, quand il n'y avait pas d'infirmière ou que la famille pouvait pas s'en occuper, on faisait la toilette du défunt. Il y avait cet antique respect de la mort, qui est aussi le respect de la vie. Et le fait extraordinaire de vivre sur les mêmes pentes, avec la même âpreté à vivre, parce que c'est un pays pauvre et dur, de recevoir la même eau tombée du ciel, de voir le même printemps, la même neige, et de ne pas, entre guillemets, se fréquenter. Et moi, il y a 55 ans, quand je suis arrivée avec mon fiancé catholique dans notre vallée, il fallait que Louis Vel ait vraiment beaucoup de charme pour que la pilule ne soit pas trop amère à avaler chez nos voisins. Et puis peu à peu, on a vu évoluer les choses. Et c'est venu comme une marée. Et nous en avions parlé avec mon père. Il avait connu ce moment de la résistance des maquis et des enfants cachés, les enfants juifs, parce que dans les fermes, on n'avait jamais vu ni un nègre. Je dis un nègre parce que je veux me remettre dans le contexte historique. Dans nos vallées, c'était comme si on avait vu arriver une girafe. On n'avait jamais vu un juif. Les juifs, on savait qu'ils existaient puisqu'ils étaient tous les jours dans la lecture de la Bible. Mais de savoir qu'un enfant, parce qu'il descendait de ce peuple d'Israël dont on lisait l'histoire dans la Bible, parce qu'il descendait de ce peuple, allait être torturé et peut-être tué, immolé, c'était inacceptable. Alors, il y avait deux références. Une de l'Ancien Testament qui était, souvenez-vous, que vous avez été esclave au royaume d'Égypte et que l'Éternel, votre Dieu, vous en a sorti. Et puis, il y avait dans le Nouveau Testament la parole de Jésus disant, ce que vous faites à un enfant, vous le faites à moi. Et il ne faut pas réduire la résistance et le secours à l'enfant juif dans les Cévennes aux seules familles protestantes. Parce que les catholiques, il y en avait moins, si vous voulez. Mais ils ont fait aussi leur devoir. Il y a toujours eu, dans tous les endroits, des traîtres et des gens pas bien. Mais le paysan cévenol, qu'il soit catholique ou protestant, a toujours voulu sauver la justice et la liberté. Parce que il se souvenait de l'époque où nous-mêmes, nous étions persécutés.
Grâce à vous, Frédéric Hébrard, nous allons écouter avec nos auditeurs un extrait musical. Nous allons écouter un extrait du concerto pour piano et orchestre numéro 5 en fa mineur, interprété par Glenn Gould, donc une œuvre de Jean-Sébastien Bach. Frédéric Hébrard, grand prix du roman de l'Académie française en 1987 pour son livre Le Harem, est l'invité de votre émission Parcours sur Canal Académie. Canal Académie, la première web radio académique francophone au monde. Frédéric Hébrard, dans votre dernier ouvrage, paru aux éditions Plon, Les Châtaigniers du désert, vous décrivez une scène que vous avez écrite en y mettant beaucoup d'émotion. Dalila, jeune institutrice d'origine nord-africaine, s'adresse en arabe à un jeune maghrébin et ne comprend pas. Mais alors, pas un mot. Et là, c'est la fleur coupée, dites-vous. Ce jeune n'a plus de racines.
Oui, je trouve ça terrible. Vous savez, j'ai tout inventé pour les châtaigniers du désert, mais tout est vrai, je ne me serais pas permis d'avancer une histoire comme celle de Dalila qui arrive pour la première fois à l'école avec le foulard. Tout le monde est affolé, on se dit « mon Dieu, on va avoir des problèmes ». Elle entre et dans la classe, elle enlève le foulard en disant « dans l'école de la République, je suis en sécurité comme au cœur d'une mosquée ». Et là... Je ne raconte pas pourquoi elle s'exprime en arabe à ce jeune malheureux, voyou, déboussolé. Et elle lui parle longtemps et à un moment il dit « mais madame, je comprends pas, je parle pas l'arabe ». Et ça m'a paru tellement triste qu'il n'ait plus le souvenir de la langue de ses grands-mères, c'est affreux. C'est pour ça que je suis très attachée à la mémoire historique, géographique, à tous les petits trucs qu'on se passe en disant oui, pour Noël, on va manger les 13 desserts et puis on va faire la crèche, on va faire l'arbre, tout ça. Chaque culture a ses petits trésors et je crois qu'il faut toujours les célébrer.
Alors, faisons acte aussi de mémoire, mais alors cette fois-ci d'ordre tout personnel. Vous n'êtes pas devenue danseuse, Frédéric, mais comédienne. Et c'est au conservatoire que vous rencontrez Louis Veil, qui, après une gifle mémorable, va devenir le partenaire de votre vie.
C'est-à-dire que nous étions invités à répéter ensemble le joueur. Et il était charmé, on avait répété, on se connaissait pas, ça se passait bien. Et à la fin de la répétition, il m'a soulevé dans ses bras et il a dit « je vais faire des poids et haltères avec le mouflet ». Le mouflet, c'était moi. Et j'ai dit « mais monsieur, vous dire que c'est pas bien, monsieur, je vous en prie, posez-moi par terre tout de suite ». Et lui, ça le faisait rire et quand il m'a posé par terre, enfin... Je l'ai giflé. Il dit toujours, nous étions dans le répertoire, ce n'était qu'un soufflet. Et alors, donc, il a eu son soufflet et il m'a dit, mademoiselle, je suis un homme de parole et je vous la rendrai car je ne la méritais pas. Et 6 mois plus tard, j'étais en train de parler rue du conservatoire, des camarades, c'était la sortie des examens d'entrée. Et il s'est dit, c'est le bon moment, il est venu, m'a giflé. Et les autres n'ont pas compris pourquoi je me suis épanouie, absolument radieuse. Et depuis cette gifle, on a arrêté avec les gifles et on a continué l'un avec l'autre.
Et un parcours spirituel que vous partagez, Louis Veil, lui,
est catholique.
Le catholique, votre moitié catholique, et vous, Frédéric Hébrard. Alors, la partie protestante, mais protestante non pas tant au niveau d'une foi personnelle assumée pendant un certain nombre d'années, mais plutôt essentiellement dans le sens d'une appartenance à une histoire, oui, à celle des Camisards, des résistants protestants des Cévennes.
Oui, ça c'est vraiment le devoir de mémoire absolu. L'histoire est très triste et très belle, mais ce dont je me suis rendu compte à la lumière de l'évolution dans le temps, il y a donc eu ces maquis, il y a eu ces enfants juifs, et au maquis, monsieur le pasteur et monsieur le curé se sont rencontrés avec celui qui ne croyait pas au ciel, avec des gens qui ne parlaient pas français, des résistants allemands, le choc a été profond. Le choc, tout d'un coup, monsieur le pasteur et monsieur le curé se sont rendus compte qu'au fond, ils avaient le même patron, ils servaient le même maître, ils répandaient la même parole. Et ils ont eu un petit peu de mal à faire comprendre cette réalité, cette nécessité à leur famille, à ceux qui n'avaient pas partagé le combat. L'urgence est parfois la mort avec eux. Et puis, c'est venu tout doucement, comme tout d'un coup la mémoire a semblé revenir aux anciens déportés, qui se sont mis à parler. Ils n'avaient pas parlé à leurs enfants, ils n'avaient pas beaucoup parlé à leurs petits-enfants, mais tout d'un coup, ils ont eu besoin de fixer les choses pour qu'on n'oublie pas la réalité. Et un jour, je me suis rendu compte que le curé Christian Salling de Valrhogue et le pasteur Fabienne Ambs étaient comme frères et sœurs. Je me souviens d'un jour, nous avons eu à déjeuner à la maison et c'était lumineux, c'était extraordinaire. Et je me disais, oh, j'aurais voulu que mon père voie ça, parce que quand ils sont partis, Louis m'a dit, nous avons reçu le frère et la sœur. Ils partageaient tout. De toute façon, ils ont une réunion tous les mois, et beaucoup plus que ça. Mais enfin, tous les mois, il faut qu'il y ait une lecture de la Bible en commun, qu'on appelle le partage. Je crois que ça existe dans beaucoup de régions de France. Mais là, ça existe d'autant plus que ils sont comme des jeunes mariés, les protestants et les catholiques. Ils se redécouvrent et ils s'aperçoivent de tout le bonheur qu'ils peuvent échanger avec aucune notion de, comment dirais-je, de manger l'autre, aucun désir de syncrétisme. Non, tu restes catholique, tu restes protestant. Et ça, c'est formidable. Avec une chose qu'ils font à Noël et qui est exceptionnelle, et depuis très longtemps, à Noël, on va au temple et on assiste à un petit mystère. Cette année, c'était les enfants qui étaient les arbres de la Bible et qui représentaient chacun un châtaignier, un olivier, un cèdre, un chêne, un mimosa. Enfin, et alors, on assiste à ça, c'est toujours très mignon. Il y a un petit Jésus, il y a peut-être pas le bœuf et l'âne, mais il y a des petits agneaux. Enfin, c'est très joli. Et après, tout le village est là. Après, tout le village court vite, vite, vite dans la neige s'il y en a, jusqu'à l'église, et on assiste, protestants et catholiques réunis, à la messe qui n'est plus de minuit. Et après, on va manger les 13 desserts, comme en Provence. Et je trouve ça merveilleux. Et je trouve qu'on a attendu longtemps. Mais c'est exemplaire. Et cet exemple, je voudrais qu'on le suive dans le monde entier, partout, où tout d'un coup on se bat au nom de Dieu. Mais aimez-vous au nom de Dieu, mais ne vous battez pas.
Frédéric Hébrard, pour reprendre le parcours de vos premières années de vie, donc vous êtes comédienne sur la scène de la Comédie Française, puis sur les boulevards, mais peu à peu, l'encrier reprend ses droits,
oui,
dites-vous.
Très
et vous
vite.
Allez progressivement abandonner le théâtre pour la littérature. Et votre tout premier roman, je crois, Le Mois de Septembre,
oui,
est traduit tout de suite en 9 langues. Il fait le tour du monde.
Mmh.
C'est un succès.
Oui, oui, c'est vrai. Et ça a fait une immense joie à mon père et à ma mère aussi. Parce que, bon, ils avaient accepté que je sois comédienne. Et puis, ils ont tellement aimé Louis que rien que pour la rencontre, ils étaient heureux. Mais ils ont bien aimé que je devienne écrivain. Et mon second roman, Un visage, qui est l'histoire d'une jeune fille, je suis très centrée sur les héroïnes courageuses. Eh bien, c'est l'histoire d'une jeune fille qui monte à Paris et qui devient, par une suite de successions imprévisibles, secrétaire dans un théâtre parisien. Et ce théâtre va disparaître. Et elle s'est prise d'amour pour ce métier, elle a beaucoup de chagrin et le théâtre devient un garage. Et la dernière phrase, et ma mère aimait beaucoup cette dernière phrase, elle me disait, je crois que ça c'est la vie, c'est simplement, Michel, l'héroïne, continue à travailler car c'est toujours la guerre et il faut toujours avancer. Et là, je ne me rendais pas compte que j'étais déjà dans le rail de la tour de Constance et de ce mot qui est le mot clé des Cévennes et de beaucoup de protestants, qui est résister. Le mot que Marie Durand a gravé avec ses ongles et l'aide de ses compagnes pendant les 37 ou 38 ans qu'elle a passé dans cette tour épouvantable.
Était-ce par sentiment de tradition familiale et que l'écriture s'est imposée à vous pour reprendre en quelque sorte le flambeau ?
Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Je suis pas très obéissante. Je crois que je suis fidèle. Et puis que j'ai peur qu'on coupe les racines des fleurs, mais je ne fais rien qui ne vienne des profondeurs de moi-même. J'ai pas repris le flambeau. D'abord, en plus, nous n'écrivons pas du tout de la même façon, mon père et moi. Et dans son dernier livre, qui malheureusement a été édité après sa mort, et j'étais seule pour corriger les épreuves, et vraiment, c'était bien le mot épreuve qui convenait, il y a une page où il parle de moi. Et il parle de ma façon d'écrire et de sa façon d'écrire, et dit que lui, il est le minéral et moi, je suis la fleur. C'est très joli. Mais il dit quelque chose de prémonitoire, car il était un peu prophète. Je crois que nous avons ça dans le sang. Vous savez, on parle beaucoup des prophétesses, et du reste, j'en ai mis une dans mon livre, bien qu'il se passe de nos jours. Et mon père disait... Sommes-nous semblables à ces familles de peintres du 18e français ou à ces familles de romanciers anglais pour qui l'art est la passion majeure? Mais à ce moment-là, mon grand-père Félix Mazauric avait écrit, papa n'en parlons pas, maman Lucie Mazauric aussi, Max Aldebert, le frère de papa, d'accord, et il savait que j'écrivais et que Louis écrivait, puisque nous avons fait La Demoiselle d'Avignon et quelques autres ensemble, enfin tout ce que j'ai fait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son petit-fils François deviendrait scénariste, ferait avec nous le château des Oliviers, le mari de l'ambassadeur, le grand Bâtre, que l'aîné de ses petits-enfants, Catherine Vell, serait maintenant à son troisième roman, puisqu'elle a fait La Vallée des mensonges qui se passe dans les Cévennes, Le silence des sources, et qu'elle est en train d'écrire Sœur Chocolat, qui est une chose très savoureuse. Et puis maintenant, nous avons la femme de François, Fanny Brunette, qui vient de sortir son premier roman, Au Rocher, Les Murs de Rome. Les deux petites sont en train d'écrire. Nicolas, lui, édite et produit de la télévision et du cinéma. Mon autre belle-fille, Dominique, est notre avocat. Ça fait très famille de gangsters, notre avocat. Et alors, on est tous tournés vers la littérature,
vers la création,
vers la création, et c'est merveilleux. Donc il avait raison quand il se posait la question.
Il y a une atmosphère, Frédéric Hébrard, dans tous vos romans. Essayons de la définir. Donc on a vu des lieux et une nature qui jouent un rôle déterminant parce qu'ils représentent, ils créent les racines. Dans l'un des nombreux articles que l'on peut lire actuellement dans la presse, avec la sortie de votre dernier roman, Les Châtaigniers du désert, j'ai pu lire, je crois que c'était dans le Pèlerin magazine, les bons sentiments peuvent faire de très bons romans. Et c'est tant mieux par les temps qui courent.
Oui. Oui, c'est vrai, parce que c'est un petit peu réducteur de dire on fait pas de bons livres avec de bons sentiments. Non, on fait pas non plus de bons livres avec de mauvais sentiments. Je crois qu'on fait de bons livres quand ils sont bons, que ce soit des bons ou des mauvais sentiments. Je crois qu'il faut montrer la vie, il faut passer le témoin, et il faut permettre au lecteur de s'approprier entièrement ce que vous lui offrez.
Mais tout comme votre père, Frédéric Hébrard, corrigez-moi si je me trompe, vous ne vous mettez pas devant une page blanche pour confier à cette page vos états d'âme. Mais comme lui, pour faire vivre des personnages qui vont mener votre propre combat, celui de la paix, de la liberté, de l'harmonie entre les êtres. Est-ce que je me trompe ?
Non, c'est très gentil de voir les choses comme ça. J'amène beaucoup d'animaux aussi.
J'ai dit être de façon tout à fait volontaire, à bon escient, parce que les animaux ne sont jamais oubliés, ni chez votre père, ni
absolument
dans votre littérature.
Mais ils ne sont pas oubliés dans la famille d'André Chanson et celle de ses descendants, parce que nous pensons que ces créatures qui furent créées avant nous représentent la volonté de celui que j'appelle le grand scénariste, et que nous devons les respecter. Bon, ben de là à cohabiter avec un serpent à sonnette ou un scorpion, non, je suis pas folle non plus. Mais j'aime pas tuer les fourmis.
Frédéric Hébrard, grâce à vous, nous allons écouter un extrait du concerto numéro 27 en si bémol majeur de Mozart, qui nous est interprété par le pianiste Christian Zacharias.
Canal Académie.
Frédéric Hébrard, grand prix du roman de l'Académie française en 1987 avec le Harem, est aujourd'hui l'invité d'un double parcours sur Canal Académie. Frédéric Hébrard, dans Les Châtaigniers du désert qui viennent de paraître chez Plon, votre dernier ouvrage, sans rien dévoiler de l'intrigue, ce qui serait tout à fait désobligeant pour nos lecteurs, auditeurs qui s'apprêtent à découvrir votre roman, vous nous racontez comment une jeune théologienne, brillante mais incroyante, Marie de Valheim, va recevoir la révélation de la foi dans la chaleur d'un bel été cévenol. Alors, qu'avez-vous voulu défendre dans cet ouvrage ?
Eh bien, moi j'aime bien la diversité, j'aime bien... je voulais pas faire une image pieuse, une gentille petite jeune fille qui se destinait à être pasteur. Non, 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 je voulais partir de très loin. Elle a perdu sa maman quand elle avait 15 ans, elle a perdu la foi en même temps. En plus, son père s'est remarié trop vite, donc elle est un petit peu sauvage. Elle est très belle, elle a beaucoup d'argent et elle va peut-être épouser le plus jeune sénateur des États-Unis qui risque un jour de finir à la Maison Blanche. Donc elle a un avenir extraordinaire et elle aime beaucoup son frère qui n'est pas son frère mais qui est devenu son frère parce que les grands-pères étaient au camp du Struthof au moment de... C'est toujours récurrent chez moi là, la résistance et ça c'est papa. Et donc, elle vient dans les Cévennes lui faire la surprise et lui demander ce qu'il pense du jeune sénateur. Et il est mort la veille de son arrivée, brusquement, rupture d'anévrisme. Et cette fille va se trouver confrontée à des choses qu'elle n'a pas prévues, mais que le grand scénariste, lui, a prévues. Et ce qu'on vient d'entendre de Mozart est quelque chose de très important, parce que c'est récurrent dans tout le livre. C'est la petite phrase que joue Bob.
Qui est Bob ?
Bob est un pianiste merveilleux qui vit avec Melchior, qui est un homme merveilleux qui s'occupe des eaux et forêts, qui est à la retraite. Et c'est un couple d'homosexuels. Mais je voulais montrer un couple d'homosexuels comme je les aime, c'est-à-dire qui n'ont pas de talons hauts et qui ne mettent pas de faux cils et de paillettes. C'est un vrai, c'est deux hommes qui s'aiment. Et le plus jeune, Bob, joue toujours cette petite phrase de Mozart, la 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 la, car il dit c'est la petite phrase qui console de tout. On verra qu'elle ne console pas de tout, mais qu'elle l'aide à supporter la souffrance.
L'œcuménisme aussi un enjeu majeur dans beaucoup de vos ouvrages. L'amitié entre Parpaillot, Papy, sur des terres qui ont connu malheureusement l'atrocité guerres de religion. Et donc c'est en raison de tous ces combats que le désert a vu le jour en pays cévenol.
Oui, oui. Voilà.
Un monde vers la paix, dans Roule Bandit, votre père, André Chanson, fait le portrait d'un réfractaire cévenol qui ayant refusé d'aller à la guerre.
Tu ne tueras point.
C'était réfugié pendant 4 ans dans les montagnes pour ne pas être amené à tuer son prochain. Alors justement, ces convictions pacifistes sont au cœur du livre. Et malgré, donc du livre de votre père, André Chanson, et malgré ces convictions, André Chanson va pendant la Deuxième Guerre mondiale s'engager
complètement
dans son époque pour être, dit-il, citoyen des tumultes de cette époque et soldat de ces guerres. Alors pourquoi, avec une telle détestation de la guerre, est-ce qu'il arrive à s'engager deux fois, une fois en 39, une fois en 44?
Sans compter tout le temps de la résistance et du silence de l'écrivain qui écrivait tous les jours mais qui ne voulait pas publier dans un temps où on ne pouvait pas dire la vérité.
C'était un acte de résistance là aussi.
Totalement.
Que vous avez vécu à côté de lui.
Complètement. J'ai vu naître écrit en 40, j'ai vu naître le Puy des Miracles, la Reconquête. Et c'était extraordinaire parce que c'est ce qu'on peut appeler exemplaire. Et papa était vraiment ennemi de la guerre et il disait qu'il avait peur au combat, mais du reste tout le monde a peur au combat, ou à moins d'être inconscient. Mais il aimait la liberté. Il aimait la liberté et tout d'un coup, le sang des ancêtres est venu à la rescousse alors qu'il était comme Roule Bandit, profondément pacifiste.
Il y a une jolie anecdote par rapport à la chambre de Goethe. Racontez-nous.
Je comprenais pas, j'étais petite, je comprenais pas pourquoi il avait l'air ravi de trouver que l'appartement meublé où on avait échoué à Montauban, chez des vieilles demoiselles protestantes du reste, lui rappelait la chambre de Goethe. Et il avait l'air content d'être chez Goethe. Et je lui dis, mais on est en guerre avec les Allemands. Et il me dit, mais pas avec Goethe. Goethe, il est à toi. Comme l'égoile et comme le soleil, il est à nous tous. Et là, j'ai compris ce que c'était que la culture et ce que ça pouvait faire pour la paix dans les peuples.
Alors, un nouveau volume des œuvres de votre père, André Chanson, de l'Académie française. Ce nouveau volume vient d'être publié aux éditions Omnibus. Alors, nous y retrouvons donc André Chanson dans les années de guerre. Au cours de nouvelles, au cours de romans, au cours de livres, mais qui sont tellement chargés d'humanité qu'en dépit du contexte de guerre qu'André Chanson évoque, tous les traits des personnages que fait vivre votre père se retrouvent et se retrouveront éternellement autour de nous tant que l'humanité n'aura pas radicalement été changée, métamorphosée. Et c'est passionnant parce que ce sont des œuvres d'abord qui sont très bien présentées par Omnibus, très agréables à lire.
C'est le troisième et dernier tome. Maintenant, nous avons fait les œuvres complètes. Les deux premiers sont sortis il y a 2 ans et il y a 4 ans. La suite Cévenol, le livre Camisard, et puis maintenant les livres de la guerre. Et il y a aussi à la fin du troisième tome des articles du journal Vendredi qu'il avait fondé au moment du Front Populaire. Et c'est absolument passionnant. Et puis c'est vraiment introuvable. C'est exhumé du néant. Et ça, c'est tout le côté prophétique aussi. Il va y avoir la guerre, il faut faire front devant le fascisme, le nazisme, et c'était un petit peu prêché dans le désert. C'était terrible. Mais c'est beau de voir ce désintéressement, cet amour de l'Espagne au moment de la guerre civile. Et il appelait la liberté de conscience la liberté des libertés. Et je crois que c'est une vraie appellation.
Alors, malgré le titre, les livres de la guerre, ce sont des ouvrages qui s'adressent à tous, à toutes, et avec des portraits mais savoureux, des portraits à la Maupassant, avec chargés d'humanité en plus. Si vous le permettez, je fais une brève lecture de ce que l'on peut lire, page 322, dans le livre Le Puits des Miracles, à l'écriture duquel vous avez participé, petite fille,
oui,
sur la table d'écriture.
Oui, je faisais mes devoirs pendant qu'il écrivait son livre le soir. Et des fois, il me lisait des passages, pas tous, parce que c'était un peu dur pour une petite fille, mais c'était quand même... J'avais l'impression d'assister à quelque chose de sacré.
Votre père, en Tréchanson, écrivait. Mais les hommes importants de la ville, ceux qui s'appelaient eux-mêmes des personnalités, étaient indifférents à cette tuerie. Votre père parle de tuerie de chiens. Riches et gras, comment se seraient-ils souciés d'un massacre de chiens? Ils ne pensaient même pas à la formidable hécatombe qui couvrait alors le monde de sang. Les malheurs qui s'étaient abattus sur nous ne les avaient tirés qu'un instant de leur indifférence. On aurait cru que ce qui se passait dans le monde était même au-delà de leur imagination. La terre des hommes devait être pour eux quelque chose d'aussi vaste et d'aussi lointain que la Voie lactée ou que l'univers d'atomes et de poussière que je voyais s'illuminer dans la remise. Quand le tueur de chiens en ouvrait la porte au grand soleil, ces êtres insensibles au destin des autres êtres ne semblaient pas habiter notre destin, notre planète. Ils ne s'intéressaient vraiment qu'à ce qu'ils possédaient, en unique propriété. Si la couleur de l'aube ou le vent du matin leur avait appartenu, sans doute en auraient-ils senti la douceur et l'allégresse, mais ce qui n'était pas uniquement à eux leur était indifférent. Ils avaient des maisons, des bureaux, des résidences d'été à la campagne. C'est là seulement qu'ils étaient des êtres réels. Partout ailleurs, ils ne faisaient que traîner l'ennui et la hargne de ressembler aux autres hommes. Ils n'aimaient rien, sauf eux-mêmes et ce qui était à eux. Comment se seraient-ils souciés d'un massacre de chiens? Tout est là,
oui,
la vanité des hommes, l'indifférence.
Et puis voilà, l'insensibilité à la douleur d'autrui, le non-sens du prochain.
Votre père, Frédéric Hébrard, a écrit « Le héros n'est jamais qu'un homme qui fait front sans faiblir à des difficultés surhumaines. La force qui l'anime, c'est d'avoir su engager complètement sa vie dans les vérités qui lui semblaient fondamentales pour ne plus pouvoir accepter d'autres missions que celle de leur service. » Alors, ces paroles, André Chanson les a prononcées sous les châtaigniers du désert. Alors, les châtaigniers du désert, je rappelle
au
le
musée
titre,
du désert.
Au musée du désert et sous les châtaigniers du désert, qui se trouve être le titre de votre dernier ouvrage paru chez Plon, dans le fameux et prophétique discours « Résister ». C'était en septembre 1935. Rappelez-nous un peu, Frédéric Hébrard, ce qu'était ce désert.
Eh bien, ce désert, il existe toujours, puisque c'est là les châtaigniers qui sont à côté du musée du désert, qui était l'ancienne maison d'un chef camisard, Roland. Et je vais vous lire un petit passage. Il dit « Nous trouvons ici, dans ce vallon, le mot qui nous livre le secret de nos Cévennes, le mot qui est gravé sur la pierre de la tour de Constance et que le vent semble siffler sur les roches ou dans les herbes dures de nos hautes crêtes, par-delà le jardin de Dieu, sur les hauteurs de l'Égoile et de la Fajole, le mot que l'on répète aux petits-enfants dans toutes les maisons de nos vallées. C'est vrai, le mot qui semble inscrit dans ce vallon et dans ce petit village. Résister. Et résister, c'est d'abord ne pas s'arrêter à la persécution, ni à la calomnie, ni à l'injure. Puis, s'il le faut, c'est combattre, et puis vainqueur ou vaincu, c'est résister quand même, c'est-à-dire rester semblable à ce que l'on est, jusque dans la défaite et jusque dans les fers. C'était en 1935, il ne pouvait pas savoir, c'est là où je dis prophète, il ne pouvait pas savoir que quelques années plus tard, il allait partir à la guerre avec d'autres, et qu'un jour, en 1940, il s'installerait à sa table pour écrire « J'écris pour le jour de la liberté, j'écris pour conjurer les maléfices de la défaite ». Et ce très beau texte écrit en 40, il l'a dédié plus tard à la mémoire de Jean Prévost, mon ami, capitaine au maquis du Vercors, mort à l'ennemi le 1er août 1944. Comment voulez-vous que dans ma littérature, on ne pense pas à la résistance et à ses héros?
Frédéric Hébrard, grâce à vous, en mémoire de tous ces héros, nous écoutons ensemble un extrait de l'ouverture de Coriolan, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, sous la direction d'Otto Klemperer. Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et de son émission Parcours, qui aujourd'hui vous invite exceptionnellement à un double parcours, celui de Frédéric Hébrard, grand prix du roman de l'Académie française en 1987 avec son livre Le Harem, un parcours filialement, tendrement, admirativement lié à celui d'André Chanson de l'Académie française, né en 1900, décédé en 1983, son père. André Chanson, écrivain cévenol qui, à travers ses romans, ses témoignages, nous offre l'itinéraire passionnant d'un homme de son temps qui, malgré ses profondes convictions, n'est-ce pas Frédéric Hébrard, profondément pacifiste, va s'engager pour défendre ses convictions dans les troubles et les guerres de son époque. Rappelez-nous, Frédéric Hébrard, son engagement dans la lutte contre le fascisme. Donc, on l'a vu défenseur du Front populaire.
Il était défenseur du Front populaire, est allé en Espagne au moment de la guerre avec Franco. Et puis, il s'est engagé, il a demandé à partir sur le front en 39. Il a été démobilisé en 40. Et à ce moment-là, il était avec ma mère... ils étaient de cette équipe qui sauvait, qui gardait les trésors du patrimoine du Louvre, tous les chefs-d'œuvre qui étaient dans des châteaux, dans des musées en province, et qui sont revenus sans que une seule œuvre ne soit égarée, malgré tous les malheurs de la France.
Et qui a permis à la petite Frédérique de dormir.
De dormir avec la Joconde. Et alors, il est reparti, il était très très lié avec le maquis du Lot et le maquis des Cévennes, puisqu'il suffisait d'arriver dans une ferme de bar des Cévennes et de dire « je viens de la part de Monsieur des Bressous, c'est notre maison », pour être conduit dans une ferme introuvable où généralement on était sauvé. Et alors je ne voulais pas, dans les châtaigniers du désert, je ne voulais pas le citer. Je lui avais dédié Esther Mazel, les Châtaigniers du désert ne sont pas vraiment la suite d'Esther Mazel, mais elle revient, toujours la résistance. Mais ça m'ennuyait d'écrire un livre sur les Cévennes et de ne pas lui rendre hommage. Alors j'ai imaginé que mon héroïne, Marie de Valheim, un jour remplaçait l'institutrice malade et emmenait les enfants à ce que j'appelle le tombeau de l'écrivain, c'est-à-dire le tombeau d'André Chanson et de Lucie Mazoric. Voulez-vous que je vous lise ?
Je vous en prie.
Le tombeau de l'écrivain est là devant nous, à la proue de la montagne, dominant un pic vertigineux, faisant face à un paysage si vaste qu'il semble un grand livre ouvert. Le livre où est écrite l'histoire de ses enfants. Ces enfants qui se répandent joyeux, curieux, bondissants, bruyants de vie. Ne vous approchez pas du bord. Ces enfants qui reviennent vers le rocher, veillant sur le tombeau. Le tombeau qui porte des noms, des dates, et comme une signature, ce mot-clé des Cévennes. Résister. deux noms sur le tombeau et deux dates, 1900-1983. C'était le frère et la sœur, demande Julie. Non, c'était des amoureux. Ça leur a plu aux enfants que ce soit des amoureux. Ils se sont assis sur l'herbe rase autour du rocher, ils m'ont regardé. Il y a eu un silence, puis David a dit « Raconte ». Le brouillard était parti, oublié, le brouillard n'avait jamais existé, pas plus qu'un linge blanc qu'on fait tomber pour dévoiler une plaque, une statue. Et ce qui venait d'être dévoilé devant nos yeux, c'était notre pays. Les montagnes, de moins en moins hautes, de plus en plus claires dans le lointain. « On voit la mer !» cria Martin. « Où ça, où ça ?»« Oui, la mer. Ce petit scintillement de mica au bout de l'horizon, c'est la mer. » Et après ?
Après quoi ?
Après la mer. Après la mer, j'ai lancé une flèche imaginaire. Rome, Jérusalem, la Mecque, la religion. Les religions. Il voulait savoir ce que ça voulait dire, résister, qui était écrit sur le tombeau. Qui sait ? David fut le premier à lever la main. C'est quand les protestantes étaient enfermées par le roi à la tour de Constance. Il y a une dame qui a gratté une pierre avec ses ongles pendant des années et des années pour écrire ça. Mais pourquoi il l'avait enfermée, le roi ? David répond à Noémie. Parce qu'elle lisait la Bible et qu'elle n'était pas catholique comme lui. Même que pendant qu'elle grattait, les catholiques ont tué beaucoup de protestants, dit Julie. Jojo éclate en sanglots. « C'est ma faute, dit-il. » « Pourquoi ta faute ? Parce que je suis catholique. Je n'avais pas prévu ces larmes, ces confessions, ces règlements de compte en montant dans le minibus. Je dis « Mais c'est fini les guerres de religion, les dragonnades. Pleure pas Jojo, tout va bien, c'est fini tout ça. On s'aime maintenant. Regarde, monsieur le curé et moi, on est très amis. Vous allez vous marier ? » demande-t-il en reniflant plein d'espoir. « On a tellement ri que j'ai proposé, on déjeune. » En m'apercevant que dans la précipitation du départ, j'avais pas pensé à prendre le moindre petit bout de pain. Il est venu ici, l'écrivain, avant de mourir. Il est venu partout, dit Julie, et sa femme aussi, elle était très belle. Même que pendant l'hiver, quand on peut pas venir, nous, ma mémé m'a dit que toutes les bêtes de la montagne viennent s'asseoir dans la neige pour lui tenir compagnie. Et même les gens de ses livres, ceux qu'il a inventés, viennent tous. « Peut-être qu'ils sont tous là, » dit Jojo, moitié terreur, moitié extase. « On pourra lire ces livres ? Il y en a chez moi, » dirent plusieurs petites voix. « Mon grand-père les a tous. Quelle belle journée !»
Merci Frédéric Hébrard. Alors, résister, le maître mot à transmettre, c'est ça,
oui,
le sens ?
Oui, et je crois que... Je crois que mes amis sévenols catholiques... ils l'ont fait leur aussi, ce mot, parce que pour vivre dans ce pays et pour y survivre, il faut vraiment être très résistant.
Un mot qui peut et qui doit s'écouter dans toutes les langues, dans toutes les religions.
Je crois. Et non seulement résister, mais résister au désir de ne pas respecter l'autre, parce que ça, c'est très important. Et c'est merveilleux de pouvoir non seulement supporter, mais s'enrichir de la différence, de tout ce que nous apporte l'autre.
Frédéric Hébrard, merci d'avoir partagé cette heure avec nous.
C'était un
de
bonheur.
Nous avoir transmis ce mot, résister, à travers vos ouvrages et ceux de votre père, André Chanson. Merci.
Merci à vous.